Avant d'écouter un nouvel épisode de Prolongation, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique en ligne de Calcio EPP. C'est sur www.calcioepp.shop. Et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien et européen. Milan, la Juve, l'Inter, Roma, Napoli, Real, Barça, Bayern, Manchester United, plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, des sélections nationales et même beaucoup de vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast Prolongation et c'est à retrouver sur calcioepp.shop.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour décrypter et découvrir les subtilités de leur métier. Dans des conversations de 30 à 60 minutes, nous discutons de leur métier pour mieux le décoder. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Et vous le verrez, il n'est nullement question de buzz dans ces entretiens avec des entraîneurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs, des joueurs et bien d'autres personnalités. D'ailleurs, si vous avez apprécié cet épisode ou les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcasts pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Maxime Lopez, joueur de Sassuolo et formé à l'Olympique de Marseille. Avec lui, nous avons évoqué un grand sujet, jouer pour le club de son cœur. De la rivalité entre Burel et l'OM chez les jeunes, à son départ de l'OM, en passant par la formation au Centre Olympien, son arrivée en équipe première, mais aussi la pression sur ses épaules et le besoin d'être bien entouré, je vous propose aujourd'hui un entretien pour comprendre l'attachement de Maxime Lopez à l'Olympique de Marseille. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Maxime Lopez. Bonjour Maxime Lopez et bienvenue dans le podcast Prolongation.
Ouais, salut Johan, merci de l'invitation.
Alors, dans ce podcast, Maxime, on commence toujours par la même question. Est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué ? Alors, ça peut être par son scénario, par son résultat, par une émotion, parce que le foot, c'est quand même de l'émotion, que tu as pu ressentir. Et c'est soit un match que tu as joué, ou soit un match que tu as vu comme simple spectateur ou téléspectateur.
Bah, je pense que de toute façon, le match que je vais dire, ça va pas surprendre grand monde. C'est le match contre Leipzig avec Marseille en Europa League. Parce que, en fait, si tu veux, dans ce match-là, y avait tout ce que tu m'as dit juste avant. Il y avait l'émotion, il y avait la physionomie du match et il y avait tout ce qu'il y avait autour de ce match. Donc, pour moi, c'est vraiment le match qui, jusqu'à aujourd'hui, m'a le plus marqué. Même s'il y a des matchs, oui, mon premier au Vélodrome, c'est des matchs importants, mais celui-là, il m'a vraiment marqué parce que c'était un match d'une grande importance aussi. Et donc, du coup, c'était le match retour contre Leipzig en Europa League en quart de finale, où on perd 1-0 là-bas et du coup il faut remonter ce score et en plus on commence très mal parce qu'on prend un but au bout de 5 minutes je crois.
Ouais.
Et après ben voilà, le match en soi, on savait qu'on était confiant en fait à cette époque-là, l'équipe elle était vraiment confiante. On savait vraiment que si on jouait notre jeu, ben on ferait des différences et on gagnerait le match et puis après tout ce qu'il y avait autour que ce soit l'engouement autour du match, je m'en rappelle bien ce jour-là même avant l'échauffement, le stade était déjà plein. Il y avait un truc qui allait se passer ce soir-là et donc voilà, c'est ce tout qui a fait que ce match il restera gravé à vie dans la mémoire.
Beaucoup de supporters de l'OM évoquent souvent ce match comme étant une référence au niveau ambiance de ces dernières années. Toi, c'est ce que tu as connu de mieux à Marseille en tant que joueur ?
Franchement, il y a ça, il y a le match de Lyon l'année dernière aussi, en termes d'ambiance, en termes de bruit. Parce que sur le match de Leipzig, je me rappelle du but de Bouna, où on fait une contre-attaque éclair un peu, et il finit l'action, et il y a eu un bruit assez incroyable, vraiment. Mais c'est vrai que contre Lyon, l'année dernière aussi, il y a eu vraiment du bruit au match. Quand Jimmy met le doublé, là, il y avait vraiment une grosse ambiance.
Alors moi, j'ai fait pas mal de stades et je dois t'avouer que le Vélodrome, quand il y a de l'ambiance et quand il y a des sifflets, c'est le stade où je ressors avec des acouphènes à chaque fois. J'entends plus rien pendant 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une heure.
Ça m'étonne pas que tu dis ça.
Parce que c'est vrai que ça me l'a fait avec quelques stades aussi en Italie. Mais c'est vrai qu'en plus, depuis qu'il y a le toit, tu vois, ça condense pas mal de bruit.
J'ai l'impression aussi que depuis qu'il y a le toit, il y a le bruit, comment dire, il reste un peu plus.
Ouais.
Mais nous, ça, vraiment, sur le but de Bouna, par exemple, je te promets que le bruit qu'il y a eu, c'était un bruit où j'avais l'impression que j'entendais plus tellement que c'était fort. Le bruit était trop bizarre et le bruit au stade, quand ça siffle, hein, faut l'avouer, quand l'équipe adverse a le ballon, on les entend, les sifflements.
Alors, pour comprendre ton attachement à l'OM, parce qu'on va beaucoup parler de ça dans cet épisode, au-delà du fait d'être né à Marseille, et ça compte évidemment, on va peut-être commencer par ta famille, parce que c'est une transmission. Ton père, grand fanatique de l'OM, qui a fait quelques déplacements, dont celui mémorable.
Mais en fait, si tu veux, mon père, par exemple, du coup, moi, j'ai un grand frère et j'ai une grande sœur. Avant, quand mes parents n'avaient pas d'enfants, mon père, il était vraiment genre abonné, il allait tout le temps au stade. C'était même pas, il allait à tous les matchs et il faisait tous les déplacements. C'est après, quand il a eu les enfants, qu'il a dû calmer un peu au niveau de ça. Et donc, du coup, que mon frère, il est né en 92, en mars 92. Donc, déjà, mon père, après, il a calmé un peu. Mais oui, après, il a continué. Après, dès qu'il a eu ma sœur, il s'est calmé aussi un peu plus. Et après, avec moi aussi. Mais quand il a eu trois enfants, après, il a dû calmer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant ça, il allait à tous les matchs, il était là, quoi. Et puis après, oui, comme tu allais dire, il a fait le déplacement à Munich en 93. Ouais.
Et ça, il t'en a souvent parlé. Il en parle encore?
Bien sûr, on en parle souvent, bien sûr. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu sais, des fois, tu regardes la télé, il y a des reportages et ça parle de cette époque-là. Et puis moi, je suis quelqu'un qui suis très intéressé parce que bah, je n'étais pas né, donc je n'ai pas connu. Même mon père, c'était un grand fan des Pays-Bas de cette époque-là. Et du coup, moi, je suis en train de lui poser des questions. Par exemple, les joueurs comme Van Basten, Gullit, Rijkaard, tout ça, moi, je ne les ai pas connus. Et donc, je demande à mon père à chaque fois de m'expliquer un peu ce que ça donnerait aujourd'hui par rapport à des joueurs d'aujourd'hui comme Messi, comme Cristiano, tu vois.
Ouais.
Et du coup, ouais, c'est vrai que dès que je voyais, c'est même pas que pour l'OM, parce que mon père, bah, c'est un fan de foot, mais vraiment de l'OM aussi, mais surtout, je lui pose des questions, quoi. Il me raconte un peu à l'époque comment c'était, quoi.
Et du coup, l'OM et le foot, c'était ouais. Hyper présent chez toi?
Bah, moi, quand je suis né, bon, du coup, mon père, il était entraîneur au Burel, et mon grand frère, il jouait au Pen Mirabeau, parce que là-bas, je suis né à Marseille, mais mes parents habitaient au Pen Mirabeau, c'est une petite commune à côté de Marseille. Et après, en fait, mon père a amené mon frère au Burel, et c'est là où moi j'ai continué. Mais du coup, en fait, si tu veux, ce qui est drôle, c'est que bon, du coup, mon père était fan de l'OM, mon frère aussi, moi aussi. Mais au début, on était quand même des rivaux avec l'OM parce que Burel, OM, faut savoir que à mon époque encore plus, il y avait vraiment une grosse rivalité parce que Herbel, c'est un club aussi très très réputé à Marseille, mais qui n'était pas encore au top. Mais vraiment, Burel, OM, et il y avait les Cayolles aussi, c'était vraiment, si tu veux, la rivalité. Donc, ce qui était drôle, c'est que moi, quand je jouais contre l'OM, j'avais la haine, quoi. Je voulais vraiment les battre et tout. Mais après, le week-end, j'étais pour l'équipe première, tu vois, c'est-à-dire ça qui était drôle. Et puis, moi, pour mon frère, c'était pareil, et mon père aussi, tu vois. Mon père, c'était un fan, mais quand il entraînait, quand je jouais contre l'OM, ben, il fallait gagner, quoi, tu vois.
Parce que c'était la référence aussi de la ville, et gagner contre l'OM, c'est valorisant aussi pour ton travail.
Clairement, ah, mais clairement. Nous, on était trop. Le match de l'OM, c'était un peu, ben, tu vois, c'est comme partout, mais c'était le match qu'on cochait et qu'on attendait de jouer, tu vois. Donc, on était contents. Et puis c'était l'occasion de se mesurer un peu à ce qui se faisait de mieux dans la région. Même si, bon, au Burel, on a toujours eu des équipes qui ont toujours eu à peu près le même niveau qu'à l'OM. Hein.
Ouais, chez les jeunes.
C'est toujours le cas aujourd'hui. Ouais, ouais. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Aujourd'hui, je pense même qu'en termes d'équipe de jeunes, le Burel est bien meilleur que l'OM. Hein.
Et au niveau de l'OM, ton rapport à l'OM, est-ce que ton père t'emmène rapidement au Vélodrome ou pas spécialement?
Si, j'avais quel âge, je crois, mon premier match, je suis allé voir à 4 ans, ou je ne sais plus quel âge j'avais. Je suis allé voir un match avec mon père, je ne saurais plus te dire quel match c'était, mais j'ai un souvenir d'un match, ce n'était pas avec mon père, c'était avec un de mes cousins qui m'avait emmené voir OM Guingamp. À l'époque, il y avait encore Drogba à Guingamp. Je ne saurais pas te dire le score, mais je me rappelle du match. Et puis à l'époque, moi, j'allais beaucoup à la période où il y avait Sitchev, l'attaquant. À cette période-là, dans la saison, j'ai dû aller voir presque 15 matchs peut-être. Et j'adorais cet attaquant d'ailleurs, Sitchev. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais j'aimais bien cet attaquant.
Parce qu'il était petit, quand même.
Ouais, peut-être qu'il était petit. Je ne sais pas, il y avait un truc, je sais pas, que j'aimais bien chez lui. Et du coup, c'est vrai que j'aimais beaucoup cet attaquant. Mais ouais, cette année-là, je crois que j'avais quel âge. Je ne saurais même pas dire à quelle année il était Drogba à Guingamp pour dire à quelle année c'était.
Alors, de mémoire, ça doit être 2002-2003, je pense, puisque Drogba fait 2003-2004 à Marseille.
Ah, ben voilà, ben j'avais 4 ans, 4-5 ans, même pas.
Ouais.
Je suis né en fin d'année, ouais, tu vois. Donc, à 4 ans, j'ai fait mes premiers matchs. Et puis après, voilà, j'ai continué jusqu'à mes 13 ans où je suis rentré au centre formation, à pré-formation à l'OM, tu vois.
La première fois que tu vas au Vélodrome, en fait, tu sais, quand les enfants vont dans un stade un peu bruyant, il y a deux réactions généralement.
tu as soit être hyper émerveillé en disant waouh, ouais, c'est génial, etc. Soit la peur, tu vois, le bruit, le monde.
Non, moi, c'était émerveillé en vrai, parce que j'étais trop content en fait. C'est vrai que tout le monde le dit, mais de voir un match à la télé, de le voir au stade, ça n'a rien à voir, tu vois, de ressentir l'atmosphère qu'il y a autour du match et tout, et puis encore plus sur le drum qui est un stade unique. Donc j'étais trop, moi perso, j'étais trop content. Après, je faisais pas trop attention au bruit qu'il y avait dans le stade, quoi.
Alors, tu commences au Burel, on en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est dans le 13e arrondissement de Marseille, un des clubs les plus réputés, tu l'as dit, on parlait de Herbel aussi. Tu débutes donc à 5 ans là-bas, et est-ce que, en fait, rapidement, alors je te dis pas à 5 ans, mais est-ce que rapidement, dans un coin de ta tête, il y a l'OM quelque part comme objectif?
En fait, je vais être honnête avec toi, non. Parce que, tu vois, quand j'étais petit, donc de mes 4 ans et demi, parce que j'ai commencé à 4 ans et demi, jusqu'à ce que j'arrive à l'OM à 13 ans, nous, on était vraiment, c'était vraiment la rivalité avec l'OM, Burel-OM, tu vois. Oui, bien sûr, si on pouvait avoir la chance de jouer à l'OM, on irait. Mais vraiment, on avait vraiment cette rivalité avec l'OM qui faisait que, nous, on avait notre équipe. En plus, moi, personnellement, ma génération était vraiment pas mal. On avait une belle génération au Burel, donc on rivalisait tout le temps avec eux. Et je crois même que, c'est pas pour faire le mec, mais je crois qu'avec ma génération, je crois que j'ai pas perdu contre l'OM.
D'accord.
Okay. On a tout ce qui était. Avec tout ce qui était, on s'est rencontrés en demi-finale de championnat, des trucs comme ça, on n'a jamais perdu contre eux. Même en tournoi, on ne perdait pas contre eux. Donc, non, on est. On était bien au Burel, tu vois. Après, il faut se rendre compte qu'après, arrivé à un certain âge, par exemple, le Burel, c'était un peu moins bien que l'OM et que si tu avais l'opportunité, il fallait y aller, quoi.
Et le fait que l'OM, tu vois, n'était pas réputé. Il y avait évidemment l'exemple de Samir Nasri qui était, dans l'esprit de tout le monde. Mais encore aujourd'hui, ce n'est pas forcément le club bien qui sûr. Est mis en avant, tu vois, pour sortir des jeunes du centre de formation ou en tout cas pour leur donner de la confiance, tu vois, de leur donner du temps de jeu. Est-ce que toi, ça t'a fait réfléchir, toi ou tes parents en tout cas?
Non, parce que déjà, on va pas se mentir, à l'époque où j'ai le choix de rejoindre l'OM, c'est le seul choix que j'ai par rapport à mon gabarit et tout ça. J'avais aucun autre club professionnel qui s'était intéressé à moi. Mais à cette époque-là, moi, j'ai honnêtement, jusqu'au moment moi, où à 16 ans, j'ai eu la chance de pouvoir signer comme mon premier contrat professionnel, je m'étais jamais mis en tête il faut signer pro. Moi, je m'étais juste mis en tête d'aller prendre du plaisir, d'apprendre et puis on verra quoi. Ma mère, elle était assez à cheval sur l'école, donc elle me lâchait pas par rapport à ça. Donc, ça fait qu'il y avait un peu les deux. Et puis vraiment, moi, honnêtement, jusqu'à mes 16 ans, c'était vraiment le foot pour le plaisir. Mais ça allait toujours aujourd'hui. Mais ce que je dis maintenant, c'est quand même mon métier. Mais jusqu'à 16 ans, non, moi, j'avais pas. Et puis après, du coup, moi, je faisais pas trop attention au fait qu'il n'y avait pas eu beaucoup de jeunes qui sortaient du centre. Tout ça, moi, ça me.
Ça te parlait pas?
Non, ça me parlait pas parce que j'avais pas cette vision-là. À ce moment-là de ma vie, j'étais pas à fond dans le way. Ah, mais il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont sortis. Ah, mais pourquoi je vais. Non. Et puis en plus, mes parents, en fait, par rapport à, si tu veux, pour raconter vite, mon frère, il a signé à Montpellier, il a fait au centre de formation à Montpellier. Ça s'est mal passé par rapport au fait à la distance, mes parents, c'était un peu moins présent pour lui. Après, il a grandi, il a connu Montpellier, qui est une ville étudiante, donc il a fait un peu la break, tout ça. Il a fait des erreurs qui ont fait qu'il n'a pas signé pro, et du coup, mes parents, ils n'ont pas voulu faire la même erreur avec moi. Et donc, ils voulaient que je reste avec eux, quoi.
D'accord.
Et du coup, on va pas se mentir, j'avais pas d'autres offres, d'autres possibilités pour aller dans des clubs, mais du coup, ils voulaient vraiment que j'aille à l'OM. Et puis mon père, en même temps, il était content.
Quoi. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Ton père, fan de l'OM, du coup, quand son fils signe au centre.
Non, clairement, mon père, il était trop content. Hein. Je pense que c'était une fierté pour lui que son fils joue à l'OM, dans le club qu'il a toujours aimé. Et puis voilà, après.
Est-ce qu'il était plus content que toi, tu penses?
Je pense aussi. Ouais, je pense un peu. Ouais. Il le dira pas si on lui demande, mais je pense, ouais. Mais après, je pense que c'est surtout quand il m'a vu jouer en pro que là, vraiment, je pense que sa plus grande fierté, ça a été quand il m'a vu jouer en pro, je pense.
Ouais, de voir que t'avais franchi l'étape.
Ouais, voilà, exactement. Mon frère, il m'a raconté le jour de mon premier match au Vélodrome contre Bordeaux. Mon père et mon frère, dans la voiture, ils se sont regardés. Ils se sont dit, ouais, là, on va au Vélodrome, mais on ne va pas regarder l'OM, on va avoir des matchs joués. Quoi.
Ouais.
C'est là où mon père, il est vraiment, ça lui a fait quelque chose parce que voilà, il est toujours allé au Vélodrome pour voir l'OM jouer. Et là, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Je veux dire, demain, moi, j'ai un enfant et je le vois jouer au Vélodrome, mais ce sera une fierté. Quoi. C'est, alors que je suis, en tant que grand fan, encore heureux.
Bien sûr.
C'est normal.
Quand tu arrives au centre de formation, du coup, même s'il y a une base de joueurs qui vient de la région, tu as des jeunes qui arrivent un peu de tous les horizons. Et toi, ton nom est quand même sorti assez rapidement, tu vois, en qualité de joueur à suivre, de minot qui est au centre de formation, etc. Est-ce que tu as senti qu'il y avait un regard un peu différent des gens à l'extérieur ou même à l'intérieur du club, tu vois, des formateurs, etc., des attentes différentes parce que tu étais le minot né à Marseille, fan de l'OM, qui vient du Burel et...
Tu parles de quand j'étais en jeune ou quand j'étais en pro?
Quand tu étais en jeune d'abord.
Ah, quand j'étais un jeune, en fait, moi, si tu veux, donc du coup, j'ai fait 2 ans en pré-formation à Marseille, donc ça fait U14, U15, arrivé à U16, U17, maintenant que ça s'appelle comme ça. La première saison, ça a été très compliqué, j'ai pas beaucoup joué. Et la deuxième saison, c'est là où j'ai eu le déclic, en fait, c'est Honnêtement, j'ai eu un déclic dans ma prépa. On avait fait, je me rappelle, j'étais avec ma famille, on avait fait des futsal, des Z5 là, avec toute la prépa. J'étais vraiment bien physiquement et tout. Et en fait, cette saison-là, pas pour faire le mec, mais j'ai volé un peu sur le terrain. J'étais vraiment en forme. Je crois que j'avais mis 25 passes décisives. J'avais mis genre 10 ou 12 buts. J'avais vraiment fait une saison complète. Non, après, il n'y avait pas non plus tant de, comment dire, d'attente autour de moi. Genre, j'avais pas non plus, on n'était pas trop à cheval derrière moi. Enfin, par rapport à ta question, tu vois, c'était pas. On va pas se mentir, on n'avait pas vraiment de pression quand on était jeune à l'OM. Hein.
Ouais. Et du coup, c'est parce que quoi, tu le vois comment? C'est parce qu'il n'y a pas forcément d'attente, du coup
Parce que les choses, elles n'étaient pas bien faites, c'est tout.
Ouais, d'accord, ok.
Parce qu'aujourd'hui, si je fais pas cette belle saison en U17, je pense que je signe jamais. Enfin, il m'arrive jamais ce qui m'est arrivé parce que les choses, elles n'étaient pas bien faites. On va pas se mentir, on était délaissés au centre de formation. C'était vraiment, il fallait qu'il y en ait un qui soit vraiment au-dessus du lot, mais vraiment au-dessus du lot pour qu'il se passe des choses comme il a pu m'arriver à moi, tu vois. C'est la vérité, de toute façon. Pourquoi il y a si peu de jeunes qui sont sortis du centre de formation? C'est parce que si quelqu'un ose dire qu'il n'y a pas de qualité, je lui demande de venir devant moi et de m'expliquer pourquoi, tu vois.
Ouais.
Mais il y en a de la qualité. Moi, j'en connais des très très bons joueurs qui étaient au centre de formation, pas de ma génération, mais des autres aussi. Il y en a des très bons joueurs. C'est juste que, eh ben, à cette période-là, il y a des moments où on préfère faire venir un mec qui arrive de l'autre bout du monde que de faire jouer un jeune de Marseille, c'est tout. C'est la vérité, ça.
Ouais, ouais, bien sûr. Et puis, c'est souvent un reproche qui est fait, hein, d'ailleurs, à l'Olympique de Marseille, qui essaye petit à petit de changer les choses aussi parce que il y a un vrai intérêt aussi aujourd'hui.
Clairement.
Tu vois, même un côté, l'OM, c'est un club qui a un côté assez identitaire et les supporters de l'OM, il n'y a pas grand chose qui les rend plus fiers que de voir un jeune du centre de formation être sur le terrain. On l'a vu avec toi, on l'a vu avec Bouba Camara.
Exactement. Ben oui. On le voit avec Bouba encore aujourd'hui qui survole un peu cette année, mais voilà, tu vois. Enfin, moi, je trouve que c'est beau, tu vois, même on ne doit pas en sortir 15, mais 2-3 par an, ça serait bien, tu vois, ça, commencer à vraiment. Après, il faut voir ce que les directions en place veulent, tu vois. Par exemple, est-ce que vraiment le projet du club, c'est de vraiment de sortir des jeunes? Ça, j'en suis pas sûr. Ouais. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est par rapport à ça aussi. Après, si un jour, il arrive quelqu'un qui dit vraiment, moi, bon, écoutez, désolé de dire ça, mais comme à Lyon, ben, je veux beaucoup de jeunes du centre sortent. Bizarrement, on va voir qu'il y a beaucoup de jeunes de qualité qui sont à l'OM. Hein.
Ouais, c'est une politique sportive, quoi qu'il arrive.
C'est exactement ça, c'est une politique.
C'est
tu vois,
un choix.
Exactement, c'est un choix. Si vraiment tu veux miser sur la formation. Ben moi, je peux te dire, et j'en connais, là même aujourd'hui, je peux te dire qu'il y a 5-6 joueurs qui peuvent prétendre à, ben oui, alors pas directement titulaire peut-être, mais à rentrer régulièrement et puis à finir titulaire. Moi, je pense que oui, même aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont aptes et on le voit, par exemple, là, en ce moment, avec le coach là, Nasser Larguet, qui du coup, lui, était directeur du centre, donc il connaît très bien les jeunes. Bizarrement, ben, par exemple, l'attaquant, Aboudjeng, là, qui est rentré, qui a marqué, ben voilà. Tu vois, c'est pas anodin si, bon, lui, il connaît très bien les jeunes, du coup, mais il lui donne sa chance et il marque. Alors, ok, il y en a qui diront oui, il a mis qu'un but. Mais bon, et puis le match d'après, il le met titulaire contre. C'était qui? Contre qui? Purée, je ne me rappelle plus. Il a joué titulaire le match d'après, il a été très bon aussi, tu vois.
Ouais.
Je crois que c'était contre Nice. Donc, ça veut dire qu'il y a de la qualité, c'est tout. Moi, je pense que c'est tout ça et c'est pour tous les clubs. C'est juste ça vient de la politique du club. Si celui qui est tout en haut, il demande à ce qu'il y ait des jeunes du centre qui sortent. Et pour moi, c'est intelligent de faire ça parce qu'après, au final, tu es gagnant. Parce que le jour où tu. Si j'arrive à les valoriser, ben, le jour où tu vas les vendre, tu vas être gagnant parce qu'ils t'auront coûté zéro. Pour moi, c'est un peu la vision du foot que j'ai, quoi. Mais bon, après, pas tout le monde a la même, apparemment.
Pour revenir à ton premier match en pro, tu disais que dans la voiture, ton père et ton frère avaient dit « Bon, on va aller voir Max jouer ». Toi, tu te souviens encore de ce que tu as ressenti? Alors, je le précise, c'était contre Guingamp. Tu vois, tu me disais que tu te souvenais de ton match…
Oui, la première entrée. Ouais,
la première entrée, pas la titularisation. Ouais. Ton premier match en pro.
Honnêtement, j'ai ressenti un sentiment bizarre parce que, en fait, je ne m'attendais pas du tout. Tu vois, c'était… C'était ma troisième saison en pro. Il y avait eu l'année avec Bielsa où j'avais rien fait. Enfin, j'étais avec les jeunes. L'année avec le coach Mitchell, j'avais fait un peu des deux. J'avais fait quelques bancs, quelques tribunes et beaucoup d'entraînement avec eux. Et c'est la troisième année où vraiment pareil. Tu vois, c'est comme en jeune. La première année, c'était bien passé. La deuxième, un peu moins. Après, j'avais eu un déclic. Tu vois, chaque année, j'ai un déclic. Et cette année-là, j'ai eu un déclic à la prépa où j'avais fait des bons matchs. J'avais marqué un match amical contre une équipe espagnole. Je sais plus contre qui, avec les pros. Et puis après, bah, du coup, le coach Passy me prenait souvent dans le groupe sur le banc. Et puis, à ce match-là, en plus, je me rappelle, j'étais avec Flo Thauvin sur le banc. Il m'a dit, tu vas rentrer et tout. J'avais dit, non, je pense pas à tout ça. Et c'est vrai que je crois qu'on perdait 2-0. Je ne sais plus qu'est-ce que c'est. Contre Guingamp, on perdait 2-0, je crois. Et ben, d'un coup, voilà, j'étais à l'échauffement. Et on m'appelle, je me retourne et je te redemande, c'est moi et tout. Non, mais vraiment, parce que j'y crois. Et après, ben voilà. Après, c'est au moment de rentrer vraiment sur le terrain que tu. Ben, j'étais vraiment content, tu vois. Après. J'ai vraiment eu un sentiment de fierté, tu vois, vraiment très content. Et puis après, quand tu arrives sur le terrain, après, tu n'as plus trop le temps de penser à « ouais, je suis fier et tout ». Il faut jouer direct, quoi.
Ouais, tu rentres, alors on te comptabilise une passe décisive.
Ouais, bah après, ouais.
on va dire que c'est une passe qui est bien transformée par Flo Thauvin,
ouais,
je crois.
Ouais, voilà, exactement, exactement.
Sur un tir de loin.
La passe est bien dosée, la passe elle est bien. Oui, oui, après ça compte, écoute.
Exactement,
ça, me
ça fait la stat. Ton premier match au Vélodrome, c'est 2 mois plus tard, en octobre 2016.
Entre Metz, non ?
Ouais, exact, face à Metz. Et là, du coup, on a parlé de ton premier match en pro. Là, le premier match, la première entrée au Vel.
Ouais, ben, fierté, vraiment. Ça... Là, par contre, ça m'a fait bizarre parce que bon, le stade n'était pas entièrement plein, mais il y avait quand même du monde. Et ouais, non, non. Pareil, quand j'ai foulé la pelouse, j'avais un peu des frissons parce que. Et un peu de pression parce que c'est vrai que l'ambiance au Vélodrome, elle est, comme j'ai dit, elle est unique. Donc, tu vois, tu stresses un peu, mais bon. Pareil, après, dès que tu touches le ballon, il ne faut même plus calculer. Tu vois, moi, j'ai toujours ce truc-là de ne pas trop me prendre la tête après une fois que je joue, tu vois, de vraiment jouer libéré et, dès mes premiers matchs, tu vois.
Je reviens un instant sur ce que tu m'as dit. Tu as eu un premier déclic en jeune, un deuxième déclic quand tu es entre les deux, on va dire. C'est quoi ce déclic, en fait ? C'est mental ou c'est...
Ouais, c'est mental, je pense. Dans ma tête, je suis un autre homme. Enfin, à cette époque-là, je suis un autre jeune homme, mais je sais pas, j'ai des déclics souvent. Tu vois, c'est comme là, mon arrivée à Sassuolo. Tu vois, j'appelle ça des déclics. Après, peut-être que c'est pas des déclics, mais pour moi, c'est un déclic. Tu vois, là, voilà, j'étais à la cave à Marseille, j'arrive à Sassuolo, directement, ça se passe très bien. Tu vois, à l'époque, ma première saison en pro, j'avais tellement envie de jouer en pro que, ben, c'est un déclic en quelque sorte. C'est parce que je fais une grosse saison, je finis meilleur joueur du mois de la Ligue 1, ça, quelque fait une fois. Mais tu vois, c'est après l'année d'après, l'année de l'Europa League, j'ai un déclic à un moment de la saison où je me dis bon, vas-y, réveille-toi parce que ça, je jouais pas trop. Réveille-toi, sinon tu vas vite passer aux oubliettes. J'ai un déclic et je joue toute l'Europa League, on va en finale, tu vois. L'année d'après, le début de saison, je joue un peu moins. En décembre, je dis bon, allez, pareil, il faut te réveiller, tout ça. Et je finis la saison en bombe et bon, c'est la dernière année du coach Garcia, tu vois.
Ouais.
Et voilà, c'est tout. C'est des trucs où je. En fait, des fois, j'ai peut-être tendance à pas à m'endormir, mais à me laisser aller quand je suis dans le confort, tout ça. Donc,
t'as besoin de te sentir un peu en danger, quoi, en gros.
Exactement. En plus, c'est vraiment ça. Je pense que je suis le meilleur quand je suis en danger.
Tu vois, c'est un peu la même chose parce que quand tu parlais de Sassuolo, c'est que tu quittes ton cocon marseillais.
Exactement.
Et hein. Forcément, tu te mets en danger en allant dans un nouveau club, un nouveau championnat, une nouvelle langue, un nouveau coéquipier. Enfin, tu vois, ça fait peut-être partie de ton caractère, en fait.
Exactement. C'est surtout que, j'étais pas non plus dans une grande forme à Marseille parce que je jouais pas. Donc, c'est vrai qu'en arrivant à Sassuolo, au début, je me suis posé un peu des questions, dans le sens où je me suis dit, tiens, j'espère que ça va pas me prendre 5 mois, 6 mois, 1 an pour m'adapter, pour me mettre bien, tu vois. Mm-hmm. Alors, non, mais comme après, tu vois, j'ai cette détermination, c'est ce qui fait que j'arrive à vite, par exemple, là, comme à Sassuolo, à vite pas m'imposer, mais à vite faire que tout ça se passe bien, quoi.
J'ai réécouté, figure-toi, une émission de France Bleu Provence après ta première titularisation en Ligue 1. C'était le 30 octobre 2016 et il y avait une attente de dingue. En fait, j'ai réécouté l'émission et tout le monde commençait à dire « Ouais, Maxime, faut que ça devienne notre joueur, notre capitaine, notre… » Tu vois. Est-ce que tu l'as vite senti, cette attente-là ? Parce que, tu vois, je te disais tout à l'heure, la fierté pour les supporters de l'OM d'avoir un minot, quelqu'un du cru, de le voir sur le terrain. Est-ce que ça, tu l'as senti ? D'abord, le côté attente, et puis on parlera un peu ensuite peut-être de la pression.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ma vie, elle a changé, pas te mentir, ma vie, elle a complètement changé. Depuis après ce match-là, après, on va pas se mentir, surtout que j'étais bon. Ma première saison en pro, je fais vraiment une très bonne saison pour une première saison. Et puis après, c'est surtout que je pense aussi, surtout, ce qui a fait qu'il y a eu cet engouement-là, c'est que déjà, j'étais connu depuis mes 16 ans parce que j'avais eu cette histoire avec Liverpool. J'ai signé pro à 16 ans. J'étais déjà connu par les supporters marseillais, par beaucoup de monde, tout ça. Et puis après, c'est vrai qu'il y a eu 2 ans un peu où on m'a pas trop vu. Enfin, j'ai pas eu d'apparition avec les pros, tout ça. Et puis voilà, je suis arrivé avec l'équipe première. C'est vrai que mon premier match contre Bordeaux, je crois que je fais un match vraiment pas mal. Je crois que je touche 100 et quelques ballons. Je fais vraiment des très bonnes choses. Et puis voilà, c'est une période où l'équipe, elle était très, très en difficulté. Et voilà, les gens, ils ont vu un peu du renouveau en moi. Et c'est vrai qu'il y a eu un engouement incroyable autour de moi. C'est vrai, il n'y a rien à dire. Hein. Et après, c'est Marseille, ça aussi. C'est ce club, cette ville. Ma vie, elle a changé complètement après ce match.
Et justement, la fierté des supporters, elle peut parfois se transformer aussi en danger.
Ouais,
parce que l'attente, ça devient de la pression. Parce que l'espoir, ça peut devenir le désespoir après un mauvais match.
Exactement.
Comment t'as géré ça, toi ?
Honnêtement, au début, la première année, ça s'est bien passé. Donc, ça allait, tu vois. Après la deuxième année, j'ai eu un coup de mou en début de saison et c'est là où j'ai pris conscience, tu vois, de ce milieu-là, du foot et de ce qu'il y a autour du foot. Tu vois, c'est que la première année, ben, j'étais, tout le monde me sauçait, tout le monde me mettait le plus haut, même, tu vois, dans toutes ces conneries de notes et compagnie, j'étais toujours, même en faisant les matchs normaux, toujours dans les mieux notés, tout ça. Et puis après, ben, on te tire vite dessus, des fois, tu vois. Et des fois, en fait, comme j'ai déjà expliqué dans l'interview, en fait, d'être de Marseille, des fois, c'est bien, mais aussi, c'est moins bien parce que. On m'a dit une phrase un jour, je sais plus la phrase exacte, mais genre on n'est jamais prophète chez soi, un truc comme ça. Et c'est la vérité, tu vois. C'est qu'en fait, c'est compliqué de. Même en tant que Marseillais, c'est compliqué parce que les gens, ils vont être durs aussi avec toi, tu vois. Ils vont être plus durs. Alors après, attention, je ne demande pas à ce que tout le monde me défende, tout ça. Mais il y a des moments où, voilà, où on m'a mis dans le lot, où on m'a tiré dessus, alors que, voilà, j'étais un des plus jeunes joueurs de l'équipe, tout ça, tu vois. Donc c'est compliqué aussi à gérer.
Rapidement, après ta première saison, il y a Bouba Camara qui arrive en équipe première. Est-ce que ça t'a un peu aidé? Parce qu'il n'y avait plus seulement de l'attente sur toi. Malheureusement, pour ouais. lui, il y avait aussi de l'attente sur lui, pour le coup.
Bouba, il était déjà bon, à l'entraînement. Il était tout le temps... Moi, ma première année, par exemple, Bouba, il était tout le temps avec nous. Et d'ailleurs, il avait, cette saison-là, il avait joué son premier match contre Sochaux en Coupe de France, Coupe de la Ligue. Il avait joué arrière-droit, je me rappelle. Tout le monde vit ça. Parce que moi, j'étais remplaçant ce match-là, mais lui, il avait joué arrière-droit, il avait fait un bon match. Et le fait que Bouba, il arrive, pour expliquer, j'ai pas de problème de pression ou quoi, j'ai pas du mal à accepter la pression ou quoi que ce soit, donc ça va. Mais le fait que Bouba, il arrive, du coup, après, je pense que les gens, ils étaient contents, surtout. Ouais, on était deux, on s'est retrouvés avec deux joueurs du centre formation à jouer. Après, Bouba, la deuxième année, quand on a fait la finale de l'Europa League, il jouait sans jouer, il a joué beaucoup de matchs, mais c'est pas la saison où il a joué le plus de matchs, parce que je me rappelle que même après le match de Leipzig, il a celui qu'on gagne 5-2. Il se blesse, il se fait une jarre d'entorse et il revient que vers la finale de l'Europa League. Donc, il a eu quelques difficultés. C'est l'année d'après où il a commencé à jouer titulaire ou pas.
Il y a un truc que je voulais évoquer avec toi parce que comme je suis de très près le football italien, tu vois, je te disais en début d'épisode que l'OM, c'est un club très identitaire. Et en Italie, il y a un club qui est très identitaire aussi, c'est la Roma. Parce que la Roma, si tu veux, il y a cette même fierté dès que tu as quelqu'un du centre de formation qui arrive en équipe première, parce que ça fait 40 ans que le capitaine, alors à quelques exceptions, quelques saisons près, c'est un mec du cru, parce que tu as eu De Rossi, tu as eu Totti, avant tu as eu des Giannini, bref, des joueurs, tu vois, comme ça, qui étaient du cru, des purs romains, centre de formation, et ensuite qui arrivaient en jeune, en pro, qui prenaient le brassard, etc. Et en fait, moi, ce que je constate à la Roma, c'est un peu ce que je constate aussi à l'OM, c'est que tout à l'heure, tu disais, parfois, on est plus dur avec les jeunes Marseillais, entre guillemets. Et en fait, à la Roma, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on a très peu pardonné de choses à Florenzi, très peu pardonné de choses en ce moment à Lorenzo Pellegrini, qui est aussi un jeune, enfin, qui est un peu moins jeune maintenant, mais qui est encore jeune, du centre de formation. Comment tu l'expliques, ça? Parce que normalement, quand on est content d'avoir quelqu'un du cru, on est censé quand même être...
Ouais,
plus tolérant, tu vois.
Est-ce que les gens attendraient pas justement encore plus de nous, des joueurs qui sont du cru, qui... Honnêtement, cette question, vraiment, c'est compliqué à répondre. Je ne saurais pas te donner une explication concrète et juste par rapport à ça, tu vois, parce que pourquoi il y a encore plus d'attente, pourquoi les gens sont encore plus durs, je ne sais pas. C'est vrai que des fois, il y a des joueurs qui ne sont pas du cru, qui ont un peu plus de passe droit. Ça, faudrait
ça tu l'as constaté, toi?
Oui, clairement, mais oui. Celui qui me dit qu'il est pareil, encore une fois, celui qui me dit que ce n'est pas vrai, qui vient de m'expliquer comment. Hein.
Ouais.
Non, je sais pas, il faudrait demander à... Moi, j'ai pas de réponse à cette question-là.
Tout à l'heure, je te disais, il y avait des... Tu sais, à l'OM, on parlait beaucoup de Samir Nasri, qui était sorti du centre de formation. Tout à l'heure, tu me disais, oui, c'est comme ces conneries de notes, etc. Est-ce que ça... Tu vois, toi, on t'a comparé, par exemple, avec Samir Nasri au début, alors que vous étiez pas du tout dans le même registre.
Clairement.
Est-ce que ça, avec ton regard extérieur maintenant, le recul que t'as, les années qui ont passé, tu penses que c'est une trop grande pression qu'on met aux jeunes?
Déjà, oui, c'est une trop grande pression. Et surtout, moi, j'aime pas trop ce truc de comparaison. Après, moi, perso, ça m'a mis zéro pression parce que j'étais lucide sur le fait que on n'avait pas le même style de jeu avec Samir, déjà, de une. Donc voilà, je savais que, voilà, oui, bien sûr, parce que j'étais un jeune, que je sortais de Marseille, comme lui, tout ça. Bien sûr, c'était un exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais pas non plus trop de pression à ce sujet-là parce qu'on n'était absolument pas le même style de joueur. Samir, c'était plus un dribbleur, plus un numéro 10. Moi, j'étais plus un numéro 8, un numéro 6, tu vois. Donc. Après, oui, c'est vrai que dans le foot, on a toujours ce truc de vouloir comparer les joueurs un tel avec un tel. Et ça, je trouve que ça tue le foot, en fait, de vouloir faire ça.
Et toujours avec ton regard extérieur, Maxime, est-ce que tu as l'impression que les médias, et je m'inclus dedans, du coup, ont tendance à trop vite monter trop haut les jeunes joueurs? Et quel... tu vois, je vais te dire de donner des conseils alors que tu es encore tout jeune, mais quel conseil tu donnerais aujourd'hui à un jeune de l'OM qui va arriver en équipe première, qui va faire ses premiers matchs et qui va devoir affronter ce que toi, t'as affronté?
Ah ben, qu'il soit bien entouré, la vérité. Hein. Le plus important, c'est ça. C'est vraiment qu'il faut avoir un bon entourage. Le plus important, c'est de rester lucide parce que si t'es pas lucide, après, tu peux vite t'enflammer et partir dans des mauvais délires. Et c'est là le plus gros risque, il est là. Donc, non, le plus important, c'est de faire attention à tout ça. Tu vois, de tout ce qui est de la presse, des trucs, il faut vraiment faire attention au maximum parce que c'est dangereux aujourd'hui pour les jeunes joueurs. Et moi, je l'ai vécu en quelque sorte parce qu'on m'a monté très haut et on m'a redescendu très bas aussi juste un peu après. Donc, c'est. Ouais, le conseil que je peux donner, c'est vraiment il faut être bien entouré. Alors moi, j'ai la chance d'être bien entouré. Mon père, mon frère qui m'ont toujours mis un peu des coups derrière la tête ça, si je me laissais un peu aller, tu vois. Donc,
Ça t'est arrivé parce que moi, j'ai en préparant l'entretien, tu vois, j'ai...
Mais encore maintenant, ça m'arrive.
Mais j'ai réécouté, tu vois, je crois qu'il y avait des formateurs au Burel, etc., qui disaient « Maxime, il a été très bien encadré très vite ». Parce qu'il a son petit caractère, parce que voilà, et que il a une famille qui le mettait toujours dans le droit chemin. Toi, ça t'est arrivé, tu vois, quand t'arrivais un peu en pro de partir un peu à droite, à gauche.
Ah, encore heureux. Ouais. Bon, la première année, quand j'ai commencé, que j'étais titulaire indiscutable à Marseille à 18 ans, tout ça. Après, tu entends que des éloges autour de toi et tout, tu te laisses un peu aller. Mais
tu voles.
J'avais la chance d'avoir mon grand frère qui est même encore aujourd'hui. C'est un éternel insatisfait. Donc, il est toujours là à me dire oui, c'est bien, mais en fait, c'est ça qui est bien avec lui, c'est que c'est bien, mais après, voilà, parce qu'il veut le meilleur pour moi-même et qu'il veut me voir au plus haut niveau, tu vois. Donc, c'est important, ça. Après, c'est pour ça que je dis que l'entourage, il est important. Je connais plein de joueurs aujourd'hui pour qui l'entourage c'est un peu bancal et on le voit après voilà malheureusement on voit qu'il y a beaucoup de certains joueurs il leur arrive plein de mauvaises choses. Hein.
Ouais. Si on fait une échelle des rêves, en gros j'appelle ça comme ça, tu as rejoint le centre de formation de l'OM, tu as signé ton premier contrat pro, débuté avec l'équipe première, joué ton premier match au Vélodrome, marqué avec l'OM, marqué ton premier but au Vélodrome, imposé comme titulaire dans cette équipe, tu as même fait une finale de Coupe d'Europe avec l'Olympique de Marseille, qui est ton club de
cœur. À l'échelle, elle est au top. Hein.
Voilà. Est-ce qu'il te manque un truc aujourd'hui? Non.
Alors, oui, je pense gagner un titre, bien sûr. Parce que bon, gagner un titre, mais pas avec le Covid, parce que bon, on n'aurait pas pu le fêter. Mais non, ouais, je pense que le seul truc, oui, bien sûr, que je peux mettre, c'est gagner un titre, bien sûr.
Ouais.
Ça aurait été bien qu'on gagne un titre, qu'on puisse faire, comme il y a eu pu avoir à l'époque, tu sais, sur le Vieux-Port, tout ça, tous ces moments festifs. Mais bon, en quelque sorte, sur la saison de l'Europa League, on a, c'est comme si on avait gagné un titre en fait, avec tout ce qui s'est passé. Alors, on n'a pas gagné la Coupe d'Europe. Mais non, après, sinon, l'échelle du rêve, elle est au top. Hein. En vrai, franchement, honnêtement, même encore maintenant, j'y repense. En fait, tout ce que tu peux vivre de top, mis à part gagner un titre, ben, je l'ai vécu à Marseille. Tu vois, genre, comme je disais, jouer les gros matchs, jouer les matchs de Coupe d'Europe, faire une finale de Coupe d'Europe, ben, être titulaire indiscutable, jouer des tonnes de matchs. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, l'échelle, elle est au top. Hein.
On en a parlé tout à l'heure, tu as quitté l'OM en septembre 2020, puisque le mercato était légèrement décalé cette année. Est-ce que en tant que minot, avec ton attachement à l'OM, c'est une décision qui a été dure à prendre? Parce que tu avais d'un côté le côté sportif, ok, tu disais tout à l'heure j'étais à la cave, donc tu peux le justifier très rapidement en fait le côté sportif. Après, tu as le cœur et la raison. La raison, ok, c'est sportivement... Bah, en allant en Sassuolo, alors, il n'y a jamais rien de gagné, hein. Mais tu t'assures quand même du temps de jeu quelque part. Mais après, il reste le cœur.
Ça a été très, très dur. Je te mens pas que si c'était, ça avait pas été un projet sportif comme celui de Sassuolo, je serais pas parti. Même si, malheureusement, il aurait fallu faire, finir la saison ou attendre au moins janvier pour essayer de trouver quelque chose. Mais, c'était vraiment un moment compliqué pour moi parce que, ça a été soudain. Surtout, ce qui a été dur, c'est que ça a été soudain. En vrai, moi, je m'attendais à, on va pas se mentir, c'était, je voulais partir depuis le début du mercato. Le truc, c'est qu'avec le Covid, avec plein de choses, il n'y a pas eu, avec la saison dernière où j'ai pas fait beaucoup, beaucoup de matchs, tu vois, ça a été compliqué. Et du coup, en vrai, j'étais arrivé à un stade où, je m'étais dit, la veille de qu'il y ait le premier contact avec Sassuolo, je m'étais dit, écoute, je vais rester et je vais essayer de gagner ma place, tu vois. Le lendemain, le jour du match contre Lyon, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, on a eu les premiers contacts avec Sassuolo. Au début, justement, j'étais pas trop chaud parce que je connaissais l'équipe parce que je connaissais Jérémy, je connaissais quelques joueurs. Mais je savais que c'était une belle équipe parce que j'avais entendu beaucoup parler sur les réseaux et puis même j'avais vu le match contre la Juve là où Jérémy l'a mis le piqué là contre la Buffon là. Voilà, j'avais vu ce match là et j'avais kiffé l'équipe, tu vois. Et après, écoute, le soir j'ai eu le coach au téléphone et quand on a parlé, c'est vrai, comme j'ai déjà dit, ça a été rapide, hein, honnêtement. On a parlé, il m'a dit tu veux jouer au football, si tu veux jouer au football, viens avec nous et on va jouer au football, on va s'amuser, tu vois. On va se divertir, comme il dit lui.
C'est des mots simples, hein, mais c'est marquant quand même.
Ouais, mais clairement, c'est marquant. Et puis, c'est surtout que c'est vraiment le cas, tu vois. Toi, tu connais très bien le coach des Zerbi et c'est la vérité, tu vois. Du coup, ça a été très, très dur parce que Marseille, ça reste ma ville, ça reste mon club de cœur, ça reste là où je suis né, là où je connais tout le monde. Parce que oui, à Marseille, je connais tout le monde. Et voilà, mais il fallait être intelligent et se dire que pour ma vie d'homme, il fallait que j'ai ce moment-là où il fallait que je change de club. parce que je pense que j'aurais, même dans tous les cas, ça se passerait mieux, j'aurais pas fait toute ma carrière à Marseille. J'avais envie de voir ailleurs aussi, parce que pour ma vie d'homme, j'avais besoin de quitter un peu le cocon familial, voilà, donc voilà, c'est un choix qui a été compliqué, parce que c'est vrai qu'on connaît mon attachement à cette vie, à ce club, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie.
On se souvient de ta vidéo publiée sur les réseaux sociaux de l'OM. Il a fallu la tourner combien de fois cette
Tu veux savoir, je te promets, une fois.
Ouais.
Ah, vraiment. Parce que, bon, on va pas se mentir, les larmes, elles étaient pas loin, tu vois, ouais. Sur le moment de faire la vidéo. Donc, voilà, ça a été rapide. Ça a été, j'ai réussi à être bon sur ce coup-là. Donc, on l'a fait qu'une fois. Mais la vidéo, elle a été dure à faire.
Ouais. Au moment où tu prononces les mots, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que, en gros, ça y est, c'est terminé.
Ben, surtout qu'en plus, j'avais passé toute la journée dans les bureaux avec mes agents parce qu'il fallait faire tout ce qui était transaction et que du coup, on ne pouvait pas aller à Sassuolo pour tout faire là-bas. On a signé à distance. Enfin, tu vois, c'était un peu une galère ce jour-là. Ben, au moment où je fais la vidéo, c'était en fin de journée quand c'était fait, quoi. Donc, oui, c'est là où je me suis rendu compte que ben, vraiment, c'était fait, quoi.
Tu connais l'expression « loin des yeux, loin du cœur ». Est-ce qu'avec ton ADN marseillais, avec le fait que tu sois un supporter de l'OM, c'est pour toi plutôt « loin des yeux, mais toujours près du cœur » ?
Ah bah oui, clairement. On le voit bien, je suis toujours là à regarder les matchs, à supporter l'équipe. Et puis voilà, j'ai des très très bons amis à moi dans l'équipe, des gens que je considère presque comme Bouba, que je considère presque comme mon frère. Donc bien sûr, je continue à regarder les matchs, à suivre et à regarder, je continuerai à être supporter de cette équipe à vie de toute façon.
Ouais, c'est un attachement qui...
Ouais, clairement. Ouais, c'est un attachement qui vient de père en fils, mais qui restera à vie en fait à moi.
Est-ce que le fait... Parce que là, on a tourné un peu autour du pot sur le fait du sujet jouer pour le club de son cœur. Est-ce qu'aujourd'hui, jouer pour le club de ton cœur, c'est ta plus belle expérience de la première partie de ta carrière, on va dire?
Ah, de ma carrière.
Ouais, oui. Parce qu'il y a plein de choses derrière, mais...
Oui, 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 clairement. Ah bah oui, clairement.
Si tu devais résumer ton aventure marseillaise de 2010, lors de ton entrée au centre de formation, à 2020...
Je dirais incroyable, hein.
C'est le premier mot qui te vient comme ça. Tu vois, quand tu m'en parles, j'ai un peu l'impression qu'il y avait inattendu aussi qui aurait pu correspondre.
Ouais, clairement aussi, parce que de base, je suis arrivé à l'OM pour progresser, mais pas non plus pour devenir un joueur de l'équipe première. Enfin, on a toujours ce rêve, mais ce n'était pas mon objectif premier, tu vois. C'était vraiment de progresser, voilà, de prendre du plaisir. Mais je dirais incroyable aussi, parce qu'il y a eu des saisons, même en équipe de jeunes, où c'était incroyable. Ma dernière saison avec la réserve de l'OM, mais c'était une de mes meilleures saisons de ma vie, pour être même mieux qu'avec celle avec les pros, tu vois, en termes de ce qu'on a vécu. On avait une bande de potes incroyables, tu vois, genre les déplacements, on les faisait en bus, on allait jouer à Mont-de-Marsan, on allait jouer à Rodez, on allait en bus, enfin, tu vois, c'était long les déplacements, mais on avait une ambiance dans l'équipe, elle était incroyable. C'est vraiment, et je le dis tout le temps, même mes parents, quand j'en parlais tout, c'était ma plus belle saison, je crois, celle-là.
D'accord. Ah ouais, mieux qu'en professionnel? Enfin, c'est là que tu as pris le plus de plaisir?
Non, c'est pas en termes de plaisir, parce qu'en pro, j'en ai pris du plaisir, mais c'est en termes de. L'équipe, on avait une bande de potes, tu vois, parce qu'après, en pro, ben, c'était plus ma bande de potes qui jouait avec moi. J'avais toujours mes potes, mais c'était différent, tu vois. Là on jouait vraiment, quand j'étais avec la réserve, c'était vraiment des mecs avec qui j'étais depuis, genre, ben, presque 6 ans avec eux au club, quoi, tu vois. Et du coup, de se retrouver là, jouer en réserve, voilà, aux portes des pros, tu vois. Cette saison-là, elle était incroyable, vraiment.
On arrive au bout de l'entretien, Maxime, et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines? Soit tu as un nom. Et tu peux me le donner. Même deux noms, c'est aussi... Il y a des invités qui m'ont donné deux noms, c'est aussi possible. Soit éventuellement...
Moi, j'en ai un, je pense que ça va te faire plaisir.
Alors d'accord, donc directement un nom. Okay.
Mais je pense que tu sais, normalement, je dois le deviner, je pense.
Non, je sais même pas en plus.
Mais si, tu dois savoir. C'est obligé. C'est facile à trouver en plus. Je sais que tu es un grand fan, tu vas trouver là, si tu dis ça.
De Zerbi?
Bah bien sûr.
Ah ouais, mais De Zerbi, t'imagines, en italien, après faut faire des sous-titres.
C'est incroyable. Incroyable.
Bah écoute, on fait un deal.
Tu veux que j'essaye de faire le travail de ton agent?
Non, du tout, ça je vais m'en occuper, t'inquiète pas. Non, tu prends des cours d'italien. Je sais que tu prends des cours d'italien. Et on essaye d'organiser un truc avec Sassuolo, peut-être à 3 ou peut-être pour qu'à la fois lui m'explique sa vision du jeu et toi, en tant que joueur, comment ça se traduit sur le terrain?
Oui, bien sûr, ça serait cool, tu vois, parce que je sais que tu aimes beaucoup lui, tu aimes beaucoup celui de la Spezia, celui de l'Atalanta, tu vois.
Ouais.
Et c'est vrai que même moi, je serais curieux de l'entendre parler par rapport à, tu vois, sa vision à lui du foot plus approfondie, tu vois, vraiment dans un entretien, parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont sorties sur lui, non?
Mais il fait des interviews, mais c'est vrai que, tu vois, les interviews papier, tu n'as pas forcément le temps d'entrer vraiment dans les détails, quoi.
Moi, je trouve que ça serait cool. Après, sinon, en vrai, j'aimerais bien que, en plus, toi qui es fan quand même, qui aime beaucoup sa méthode et tout, j'aimerais bien que tu fasses une interview avec lui. Hein.
D'accord, bah, tu me demandes un truc avec beaucoup de boulot alors, parce que derrière, il y a la traduction.
Ah, je sais, mais bon, après, sinon, c'est trop facile. Il faut que je te mette en difficulté un peu.
Exactement. Exactement. Et allez, je te demande comme ça à la volée, si ça devait être quelqu'un en France ou un Français, ou est-ce que tu aurais un autre nom? Ça peut être un éducateur, je sais pas, un ancien coéquipier.
En vrai, je serais pas, en France, non, je serais pas trop te dire qui, hein. Je te demande pas, non.
Est-ce que les personnes du Burel donneraient une idée de la situation des clubs amateurs dans la région marseillaise?
Ah bah clairement. Mais moi, je peux te la donner. Parce que mon père, il est encore là-bas au Burel, donc
oui.
Moi, je sais ce qui se passe, donc je suis au courant de tout.
Tu sens une émulation dans la région marseillaise, là, sur le foot? Tu sais, on dit souvent, en France, on parle beaucoup du bassin parisien, qui est avec Sao Paulo au Brésil, qui doit être la zone d'où viennent le plus grand nombre de footballeurs professionnels. À Marseille, tu sens qu'il y a aussi une vraie émulation avec pas mal de clubs de la région. Il y a Marignane,
mais ça, elle a toujours existé, cette émulation, tu vois. Mais le problème, c'est que les choses, elles sont jamais bien faites, en fait.
Ouais.
C'est tout. En fait, le problème, il vient de là, c'est que, on fait semblant de vouloir faire les choses bien, mais on les fait pas. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui avec tous les partenariats qui ont été faits, qui ont commencé à être rompus par beaucoup de clubs.
Hein. Ouais.
On va pas se mentir, les choses sont mal faites. On promet aux clubs de pas récupérer les petits avant un certain âge. Et vu qu'on voit qu'on n'arrive pas à les concurrencer, ben on essaie de les récupérer. C'est juste ça.
D'accord. Ok.
Tu vois, le problème il vient de là. Et tant qu'il y aura pas quelqu'un qui fera les choses bien à Marseille, ben il y a cette émulation. Et je pense que Marseille en France, après Paris, je pense que c'est avec la région de Lyonnaise aussi, parce que Lyon, il y a beaucoup de très bons joueurs qui sortent de là-bas. Mais je pense qu'elle fait partie des trois meilleures régions où il y a des talents. Et c'est bizarre qu'il y ait des petits qui signent à Lyon, qui signent à Lille. Mais bon, alors, quand tu creuses un peu plus, ben, tu comprends très bien pourquoi. Hein. Moi, je l'ai compris.
On est sorti de la dernière question, qui est normalement la même pour tous mes invités. Mais justement, tiens, tu vois, je vais te poser une dernière question. Même si c'est difficile parce que t'es jeune et que t'as encore plein de choses à faire dans ta carrière, c'est une évidence. Mais est-ce que ça pourrait être un truc en reconversion pour toi? Toi qui es de là-bas, qui a connu les dysfonctionnements, etc.
Ben pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas. Moi, j'en parlais récemment avec ma copine et avec mon agent. Qu'est-ce que je ferais après ma carrière? J'ai dit, il y a deux choix. Soit je ferais quelque chose dans l'e-sport.
Ouais.
Parce que c'est vrai que c'est un milieu que j'ai.
Voilà.
Je suis un gamer, moi. Soit je resterais dans le milieu du foot. Donc après, je ne sais pas exactement ce que je ferais. J'aimerais. Peut-être que d'ici là, à la fin de ma carrière, j'aurais un peu plus d'idées. Mais ça m'intéresserait aussi, ça. Être un relais pour vraiment faire les choses bien, parce que c'est pas normal que dans une ville comme Marseille, avec tout ce qu'il y a à ses alentours, les choses ne soient pas mieux faites.
Bon, écoute, Maxime, on a déjà parlé de ta future retraite, alors que t'es très jeune. Donc,
ouais,
on va boucler là-dessus. Je te remercie une nouvelle fois pour ta disponibilité, ta confiance.
Merci à toi.
Et bonne saison, bonne fin de saison avec Sassuolo. Merci, Maxime.
Et merci à toi, Jean.
Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou encore Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcasts si vous avez apprécié le contenu de cet entretien, c'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.